mettre fin à l'accord de répartition des revenus datant de 1977. Ce jugement en appel met fin à une longue bataille judiciaire entre Roger Hudson et ses anciens partenaires. Le différend prend racine dans la décision de Hudson en 2018 de cesser de partager les droits d'édition de Supertramp avec les autres membres du groupe. Et au sport au tennis, la Canadienne Rebecca Marino s'approche d'une qualification pour le tableau principal des États-Unis.
Ton corps sous le ciel de ton lit. Et ces mots murmurés que le bonheur sublime faisant de moi le Dieu tout-puissant de tes nuits. T'aimer, ce sont mes mains. Et mon corps qui t'implore, c'est ton parfum grisant qui flotte autour de moi. T'aimer, c'est tout cela, et même plus encore, sur l'envie de t'avoir sans cesse dans mes bras. T'aimer, c'est dans ma chair qui me brûle et dessine au plus profond de moi comme un carré d'azur d'où s'évadent des chants que le bonheur décline en harmonie céleste aux accents doux et purs. T'aimer, ce sont ces doutes qui me déconfortent, cette peur que tu partes en ne laissant de toi que quelques souvenirs comme des feuilles mortes dans mes joies dévastées et ma vie mise en croix. T'aimer, c'est la raison de vivre des...
Salut tout le monde, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Nous sommes le vendredi 22 août 2025. Je suis Robert Lauture. Merci de passer une partie de l'heure du dîner en ma compagnie sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bienvenue à Puisque c'est vendredi. Si vous êtes en train de manger, que votre repas soit savoureux. Que nous réserve la météo pour les prochains jours? Aujourd'hui, ensoleillé, maximum 29. Ce soir et cette nuit, dégagé, minimum 18. Demain, ennuagement, maximum 29. Pour la nuit, nuageux avec 60% de probabilité d'averse, minimum 20. Pour dimanche, nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum 24, minimum 17. Lundi, encore des averses, maximum 23, minimum 15.
~24 heures par jour, ce n'est pas suffisant. J'aimerais disposer d'un siècle par an.
Pour Sheila, une durée de 24 heures paraît insuffisante. Quant à moi, certaines semaines, il m'arrive de constater que 30 minutes ne suffisent pas pour vous présenter l'émission puisque c'est vendredi. Quoi qu'il en soit, je vais m'assurer d'utiliser efficacement le temps qui m'est attribué. Aujourd'hui, nous aborderons des sujets liés à la santé avec Elida Pierre-Louis, ainsi que le défilé du trophée de la NBA qui a eu lieu hier dans les rues de Montréal-Nord. Mais pour tout de suite, quand vous passez sur la rue Sherbrooke, près du stade olympique, vous pouvez voir les drapeaux des pays ayant participé aux Jeux olympiques de 1976 sur l'esplanade du stade. Cependant, un citoyen d'origine haïtienne a récemment constaté que celui de son pays était absent. Je vous propose donc d'écouter l'entrevue qu'il m'a accordée cette semaine pour informer la communauté des démarches qu'il a entreprises pour que le drapeau haïtien retrouve sa place sur l'esplanade du stade olympique. Il s'appelle Hugo Langelier.
Je suis né en Haïti, on s'est adopté au Québec dans les années 80. J'ai grandi dans une famille merveilleuse, c'est des Québécois et tout. Puis, Haïti m'a toujours intéressé parce que pour moi, c'est mon pays d'origine.
Dites que vous avez été adopté, puis vers quel âge vous êtes arrivé ici au Québec?
J'ai été adopté à l'âge de 8 mois. Parce qu'à l'époque, il y avait des congrégations religieuses qui allaient pour prendre des enfants en Haïti pour les mettre sur le marché de l'adoption. Mais au moins, j'ai eu une bonne famille au Québec qui a pris soin de moi.
Et depuis, avez-vous revu vos parents biologiques?
C'est assez impossible puisque quand ils ont fait mes papiers d'adoption, ils ont marqué inconnu. Alors, j'ai les noms des orphelinats, mais je ne suis pas capable de retrouver cet orphelinat-là.
Venons-en à l'objet de l'entrevue. Comment avez-vous remarqué que le bicolore haïtien ne flotte pas sur l'esplanade du stade olympique?
Moi, j'ai un petit rituel qui se passe quand même à tous les matins au lever du soleil.
Lequel?
Au lever du soleil, je vais à tous les matins à l'esplanade voir le drapeau haïtien.
Vous habitez proche du stade?
Oui, j'habite près du stade olympique. Okay. Il y a un matin, j'ai remarqué que le drapeau haïtien avait été déplacé. Mais c'était encore le drapeau que je connais. Ce drapeau-là a été déplacé un peu plus bas. C'est-à-dire qu'à l'époque, je fais comme, c'est pas plus grave que ça. On l'a juste changé de place. Un autre matin où j'arrive, je me rends compte que le drapeau, il a disparu. Il n'est plus existant. Ça, c'est que ça, c'est mon observation à moi. Donc, je fais le tour, puis je fais, il est sûrement arrivé une erreur. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Et je refais le tour. Et finalement, je ne trouve jamais le drapeau haïtien.
Avez-vous fait des démarches pour savoir pourquoi le drapeau haïtien n'était plus sur l'esplanade?
Oui. Alors là, c'est ça. C'est qu'aussitôt que je vois ça, ça commence à me travailler un petit peu. Alors, je décide d'aller plus loin dans mon enquête.
De gratter, comme
on dit. Et d'aller voir. Parce que pour moi, si tu enlèves le drapeau d'Haïti, c'est comme si on n'existe plus puis on n'a plus aucun repère. Moi, je perds mes repères quand je me reconnais pas. J'ai quand même la fierté d'être haïtien. Et puis, ça se rend juste que j'appelle ceux qui ont fait les drapeaux haïtiens et tout ça au stade olympique.
Quand vous dites ceux qui ont fait le drapeau, des dirigeants haïtiens ou...
Non, c'est qu'il y a des personnes qui sont responsables de l'ordre des drapeaux au parc olympique.
Quelqu'un du parc olympique.
Oui, alors on m'a expliqué qu'effectivement le drapeau avait été changé, mais qu'il était encore là. Alors j'ai demandé si elle est là, montrez-moi-le parce que je ne le reconnais pas. Étant haïtien, je ne reconnais pas mon drapeau. Alors ce n'est pas normal. Et puis, ils m'ont envoyé une photo. Et là, sur cette photo-là, je vois que c'est les couleurs du drapeau haïtien, mais on l'a déshabillé de ses armoiries, puis il est méconnaissable. Ça, c'est que si moi-même, qui est un haïtien, ne le reconnais pas, d'après moi, les autres haïtiens ne le reconnaissaient pas. Alors, j'ai commencé à demander aux gens si c'était moi qui avais un problème ou si c'était que personne ne reconnaît ce drapeau. Et non, personne ne le reconnaît. Eux, ce qu'ils me disent comme excuse, c'est que le drapeau haïtien devait être enlevé de ses armoiries parce qu'à l'origine, le drapeau haïtien n'avait pas d'armoirie. Okay. Alors, il m'envoie les vidéos, il m'envoie tout ça sur laquelle ils se sont basés pour enlever les armoiries du drapeau haïtien.
C'est ça.
Oui, alors moi, je le rappelle en lui disant, j'ai aucun problème que vous enlevez les armoiries, mais ça va donner la chance de remettre le drapeau noir et rouge qui était là. Alors, je dis, remettez-moi le drapeau noir et rouge ou remettez l'autre drapeau.
Le bleu, rouge, non.
Parce que le noir et rouge, c'est le drapeau des Haïtiens quand ils ont gagné la nation.
Selon moi, ils ne peuvent pas remettre le noir et rouge parce que ce n'est plus le, c'est le bleu et rouge maintenant.
Depuis, ben malheureusement, depuis, la nouvelle depuis qu'Haïti est devenue une république à son insu, parce que ça n'a pas vraiment été voté par un conseil d'intelligence haïtienne. Parce que quand on a un conseil qui protège Haïti, telle était la mission, jamais il n'aurait accepté de devenir une république. Mais pour revenir au drapeau,
voilà.
Moi, pourquoi que c'est important que ce drapeau-là soit remis?
Disons, quelles sont vos attentes? Vous vous attendez
moi,
à quoi?
Moi, je m'attends au moins qu'on remette, parce qu'on ne remettra jamais le drapeau noir et rouge, mais j'aimerais qu'on remette le drapeau avec les armoiries. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent, ils connaissent déjà ce drapeau haïtien. Pour moi, c'est une fierté qu'Haïti a été aux Jeux olympiques. Et quand tu fais le tour et tu n'es pas capable de reconnaître le drapeau, c'est comme s'il était inexistant. Personne ne sait c'est quoi.
Okay, vous avez comme fait un micro-trottoir.
Oui, oui, parce que moi, je voulais savoir, parce que je suis sur les réseaux sociaux, ça s'est rendu, là, les Haïtiens de France étaient très outrés de ça, puis on a montré, on a appelé ensemble là, tout le monde en live pour montrer ce qui se passe ici. Et puis en live, j'ai eu toujours les mêmes réponses. On est arrivé à me parler que c'est une demande qui a été en accord avec la maison d'Haïti.
Avez-vous fait des démarches auprès de la
maison? Oui, parce que moi, quand on m'a demandé, parce que moi, j'ai dit, j'aimerais que le drapeau soit remis. Ça, c'est que là, lui, il dit, vous parlez au nom de qui? Là, j'ai fait, ben, je parle au nom de moi, puis à tous les autres que j'ai demandé qu'ils ne reconnaissent pas. Mais là, il m'a demandé d'avoir une organisation officielle. Okay. Et puis là, je devrais remercier beaucoup la Perle retrouvée, parce qu'ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont fait un papier avec une signature. Alors, pour moi, c'est une organisation haïtienne qui s'occupe de la communauté haïtienne aussi.
Okay. Avez-vous remis ce papier?
J'ai remis ce papier au Stade olympique. Il a dit que ce n'était pas eux qui décident, mais la maison d'Haïti. Alors, c'est pour ça que là, je me suis rendu à cette maison d'Haïti.
À la maison d'Haïti. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à la maison d'Haïti?
Je vais peser mes mots parce que j'ai eu le pire accueil que j'ai pu recevoir de toute ma vie. J'ai essayé de les appeler, mais là, j'ai été obligé de débarquer comme ça à l'improviste. Ils ont été obligés de m'accueillir. Mais quand je suis arrivé, on ne savait plus à qui me renvoyer. Et puis la pauvre secrétaire qui ne savait pas quoi me répondre, parce qu'elle, quand elle me parlait, elle était très d'accord qu'on remette ce drapeau. Tout le monde était d'accord. Mais là, quand j'arrive pour parler à une certaine dame, mais je demande à cette dame-là, je dis, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire quelque chose? Elle me dit qu'elle doit vérifier. Qu'elle doit s'informer et tout ça. Et puis là, finalement, elle ne donne pas suite. Donc, je la rappelle pour avoir une réponse, parce que moi, j'ai besoin de ce papier-là pour qu'on remette le drapeau haïtien.
Alors, si je comprends bien, le stade vous a dit, si vous arrivez à trouver un papier qui prouve que vous faites partie
d'une organisation... Mais il faut que ça vienne de la maison d'Haïti.
OK, pas de n'importe quelle organisation, non. Mais ça doit venir vraiment de la maison d'Haïti. Puis là, on va remettre le drapeau bleu-rouge avec l'armoirie, c'est ça?
Oui, c'est ça. Okay. Puis moi, c'est tout ce que je demandais pour que les gens puissent reconnaître Haïti étant partie des Olympiques, puis étant partie d'une communauté qui a aidé le monde, parce que Haïti a aidé beaucoup de pays par le passé, et puis on dirait que personne s'en souvient. On se souvient juste des gangs et tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'Haïti était une terre de liberté pour tous les humains, et puis que c'est ça qu'on doit envoyer comme message au départ.
Mais avez-vous essayé aussi de contacter le consulat ici à Montréal ou l'ambassade d'Haïti à Ottawa?
J'ai essayé de contacter tous ces gens-là. Malheureusement, j'ai vraiment... honte de notre communauté de
Pourquoi?
Ce côté-là.
Pourquoi?
Parce que quand on demande de l'aide, on nous rit en pleine face, on nous traite comme des moins que rien, et puis ça, c'est à part de notre communauté, là. On s'est fait raccrocher la ligne au nez. J'ai encore une fois été obligé de les rappeler en live. J'ai appelé le consulat. Le consulat nous a raccrochés, mais avant de nous raccrocher, on nous demande d'envoyer des courriels qui ne finissent plus, puis on n'a jamais de réponse, parce que quand j'ai envoyé des courriels, je n'ai eu zéro réponse de ces courriels-là. Et puis, quand on appelle, ils répondent ou répondent pas, ou sinon ils nous disent, la plus drôle c'est quand ils nous ont dit qu'ils étaient en vacances. Ils ont été en vacances pendant 3 semaines. Est-ce que c'est normal quand tu as besoin d'aide qu'ils t'arrivent dans un pays? Parce que nous, on a fait une simulation que j'arrive dans le pays, que j'ai besoin d'aide, puis que je sais pas comment me diriger. Alors c'est la première chose qu'un ambassade ou un consulat doit faire, prendre sa population en main et le rediriger. On a appelé l'ambassade du Maroc, l'ambassade de France, puis on a appelé un peu partout pour les sonder. Tous ces ambassades nous ont accueillis.
C'était pour faire une comparaison.
Oui, c'est comment, juste parce qu'on est en live, on est en direct, comme okay. vous étiez en radio, puis on dirait on va faire un test, on va appeler les Français pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis moi, ben, on a fait le jeu. Alors j'ai appelé l'ambassade de France, l'ambassade du Maroc. Ils m'ont très bien répondu. Ils étaient prêts à m'aider. À part la suite, on a dit, ben là, merci de l'aide. Quand on appelle Haïti, on ne veut pas nous parler. Alors, à Montréal, il y a des gens qui sont supposés de s'occuper des Haïtiens. Et pour qu'on donne une nouvelle image des Haïtiens, peut-être que le travail d'acceptation envers les autres communautés serait mieux. Puis il va falloir qu'on travaille sur cette image-là parce que personne ne le fera d'autre que nous, notre communauté, envers nous et pour nous.
Vous avez quitté Haïti lorsque vous avez 8 mois. Depuis, vous n'êtes jamais retourné là-bas. Pourquoi c'est si important pour vous la présence du drapeau haïtien sur l'esplanade?
C'est que il y a quelque chose dans la vie, je sais pas, que quand on est à une place, on est destiné à un endroit. Moi, je crois beaucoup à ça parce
que tu te sens comme déraciné, si je comprends bien.
Oui, parce que on m'a emmené ici contre mon gré. Si on me demandait, ben je serais encore en Haïti, mais avec tous mes parents adoptifs, parce que c'est okay. adorable. Là. C'est pas une histoire de parents et tout ça. Le vrai problème dans tout ça, c'est que mon corps demande Haïti. Je okay. rêve d'Haïti.
Vous rêvez d'Haïti?
Je suis jamais allé là. Et quand j'étais jeune, je rêvais d'Haïti à tous les soirs. T'en étais troublant. Et puis, j'ai toujours senti cette connexion-là.
Mot de la fin?
C'est que notre drapeau, le bleu et rouge, soit remis au moins pour que les gens soient capables de reconnaître
avec la mort.
Haïti, parce que c'est important qu'un pays ne soit pas dénaturé puis qu'on soit capable de reconnaître quand les gens passent. Ils sont supposés de lever la tête. T'sais, moi, j'aimerais que les gens se lèvent la tête, dire « Haïti était là ». Et c'est ça, parce que moi, je vois ça comme un manque de respect pour la population haïtienne de nous avoir enlevé notre drapeau puis notre identité encore une fois.
Merci beaucoup, Hugo. J'espère qu'un jour, vous puissiez réaliser votre rêve. Celui de retourner
oui,
en Haïti.
Oui, mon rêve, c'est de reconstruire sans souci ce magnifique okay. palais qui a été détruit. Haïti est magnifique. Et puis, les Haïtiens, là, continuez votre travail. Il y a toujours, même si vous croyez que les gens ne sont pas là, il y a beaucoup de gens qui travaillent en dessous pour qu'on ait un pays un jour. Parce que là, on l'a perdu, mais un jour, on va être capable de récupérer nos terres et de pouvoir vivre cette liberté promise par nos ancêtres.
Alors, c'était Hugo Langelier, mesdames, messieurs, qui exprime sa déception face au retrait du drapeau haïtien sur l'esplanade du Stade olympique. J'ai contacté les responsables de la Maison d'Haïti pour obtenir leur version. La réceptionniste m'a promis un retour d'appel, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Voilà, on écoute un peu de musique et de l'autre côté, Elida Birlui.
Comme un enfant
12h19 exactement, vous écoutez Puisque c'est vendredi sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Hier matin, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a annoncé le lancement de la nouvelle stratégie nationale de prévention en santé, dont l'objectif est de diminuer le fardeau des soins de santé en adoptant des mesures préventives. On dirait qu'on est dans le secret des dieux, puisque depuis la semaine dernière, à cette émission, Elida Pierre-Louis aborde des thématiques liées à la santé dans le but d'informer les auditeurs sur l'adoption de comportements favorables au bien-être et sur l'importance des mesures préventives. Aujourd'hui, nous poursuivons la discussion concernant le tube digestif.
Bonjour, Madame Elida Pierre-Louis.
Bonjour, Lothaire, et bonjour aussi aux auditeurs, auditrices et les internautes qui nous écoutent actuellement.
Alors, Elida, pour aujourd'hui, quels sont les éléments du tube digestif dont nous allons parler?
Nous allons aborder aujourd'hui l'estomac.
OK.
Il y a un élément du tube digestif, oui.
OK. Alors, j'imagine que c'est un des organes clés du tube digestif.
En effet. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste un petit rappel là, pour rappeler aux auditeurs. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était la région buccale, et nous avons parlé des enzymes qui interviennent dans la digestion initialement en mettant un peu de nourriture dans la bouche jusqu'à l'œsophage. Nous étions rendus à l'œsophage qui est aussi un élément annexe de tube digestif. Alors, c'est vraiment un organe important. Et c'est là que nous allons parler, c'est celui-ci que nous allons nous parler. Donc, c'est un organe qui est localisé dans la partie gauche, à la partie gauche de l'organisme. Il est en forme de J, parfois en forme de cercle, ok, un demi-cercle. Et aussi, on peut dire, des poils, là, des fèves, on peut regarder, si on coupe ça, c'est à peu près cette forme-là. Donc, c'est la partie gauche, là, tout près, en bas des côtes, là, ici, vis-à-vis de l'ombilique, ok? Donc, c'est là que se trouve notre estomac. Donc, nous pensons que les auditeurs, pour nous, c'est très important qu'ils comprennent ces structures-là et pourquoi que nous devons bien manger et bien digérer les aliments, bien mastiquer. Et c'est ça que nous allons regarder, le rôle de l'estomac aujourd'hui.
Alors, quels sont les attributs qu'on peut donner à l'estomac?
Bon, l'estomac a beaucoup d'attributs, mais avant, il y a pour réaliser son travail, il y a quelques structures qu'il faut rapidement voir. Parce que juste l'estomac ne peut pas faire son travail. Donc, dans l'étude qu'on fait aujourd'hui, nous ne pouvons pas tous parler des éléments chimiques, des choses comme ça, parce que c'est pas le but, mais c'est juste l'important de comprendre le mécanisme. Donc, l'estomac, à l'intérieur, il y a comme un genre de toile là, qui fait toute la surface, et ça, ce sont c'est un tunique un mucus gastrique qui peut se modifier pour que l'estomac travaille correctement ou remplir adéquatement ses fonctions par l'intermédiaire de ces structures-là. Nous allons parler du cardia. Le cardia, c'est un petit organe qui continue l'œsophage et qui se débouche dans l'estomac. C'est comme une valve pour empêcher le contenu de remonter dans l'œsophage ou dans la gorge. Parfois, on le sent. Parfois, c'est ouvert et puis on mange et puis on tousse et puis le contenu remonte que la valve s'ouvre. Okay. Tout de suite. Mais il ne devrait pas s'ouvrir parce que c'est vraiment pas agréable d'avoir ça sur la bouche. C'est très acide et puis c'est amer.
C'est comme
parce
un reflux.
La digestion commence.
Pardon? C'est comme un reflux.
Quand les gens font les reflux, c'est comme ça.
Okay.
Donc, cette affaire-là, la vase s'ouvre et puis les choses remontent. Et puis, les gens disent, bon, on a des mouvements d'estomac, etc. Donc, c'est le cardia qui permet que la nourriture rentre dans l'estomac. Maintenant, après ça, il y a une autre spécialité, c'est la musculeuse. La musculeuse, tout de suite, on voit le mot muscle, c'est-à-dire ce sont des fibres, des couches musculaires qui sont circulaires, longitudinales, la façon dont c'est placé sur le tapis, et les muscles lisses, profondes, dont les fibres sont disposées obliquement. C'est-à-dire que, donc, on voit que l'estomac a bien arrangé son tapis pour que quand il veut faire son travail, pour que rien ne l'empêche. Parce que son but, comme vous m'avez demandé, des attributs, etc., il reste encore une autre chose, un autre élément, une autre structure qui est très important, c'est le pylore. Vous avez tous entendu parler de H. pylori. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir des problèmes. Le pylore, c'est une partie de l'estomac. C'est la fin de l'estomac, là. Parce que après, le pylore, c'est un tube qui relie l'estomac au duodénum. Le duodénum, c'est une autre structure qui appartient à l'intestin. C'est le début du petit intestin ou l'intestin grêle. Donc, l'intestin, on en parlera une autre fois, mais pour le moment, nous allons rester à l'estomac parce que l'intestin, c'est là qu'il va avoir l'absorption et l'estomac va travailler de sorte que qu'il amène le contenu qu'est-ce qu'il va écraser correctement vers le petit intestin en passant par le duodénum. Maintenant, j'avais demandé quels sont les attributs qu'on peut donner à l'estomac. Oui. Effectivement, la fonction principale de l'estomac est de décomposer les aliments en plus petits morceaux. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas aller à l'intestin. L'aliment ne peut pas rentrer dans le duodénum si ce n'est pas bien écrasé, bien pétri, ok, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là aussi que la dégradation chimique des protéines débute, où les aliments sont transformés en bouillie. Vous savez, on a toujours entendu parler de certains bols alimentaires. Quand tout est digéré, bien écrasé, c'est comme un mixeur, là. On mixe les choses, on va tranquillement faire le petit mélange, après ça, on voit que c'est trop bien, on ajoute de l'eau, ça s'en va à mix, après ça, on s'en va à purée, et puis après à liquide. C'est comme ça masse comme un mixeur, là. Mais ça, c'est pour permettre aussi que ce liquide-là qu'on va obtenir, cette bouillie crémeuse qu'on va avoir, donc, ça va pouvoir passer pour aller à l'aide des enzymes, bien sûr, les enzymes gastriques, ok? Et par conséquent, les protéines, c'est là seulement que ça peut être dégradé à l'aide d'une enzyme qu'on appelle la trypsine qui digère vraiment les protéines, ok? Donc, à ce moment-là, quand l'estomac finit de broyer, de mélanger, donc il va falloir qu'on pousse cette affaire-là vers le pylore, et le pylore attend aussi que le duodénum s'ouvre sous l'action des hormones, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent, même le système nerveux intervient, tout ça, pour ordonner au pylore, au duodénum, de s'ouvrir, parce que le pylore est prêt à transporter le chyme, qu'on appelle ça, donc ce qu'on obtient, le fruit de la digestion gastrique, c'est le chyme ou le chyme, c'est un mot grec qui vient de koumos, qui signifie sucre. Donc, ça veut dire que ces choses-là sont déjà mélangées, déjà mélangées, déjà mélangées, déjà mélangées, déjà mélangées.
Bonjour. La famille Jean-Claude a la douleur d'annoncer le décès de Yves Jean-Claude, survenu le 31 juillet dernier à l'hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu. Il laisse dans le deuil ses enfants, Mona et Johnny Jean-Claude, ses enfants adoptifs Jean Reynolds et Louis-Jens Eugène, son ex-femme Molina Dorville, ses frères Yvon et Leslie Jean-Claude, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La cérémonie de recueillement aura lieu samedi le 30 août dès 8h30 au Magnus Poirier Sherbrooke, situé au 6825 rue Sherbrooke-S à Montréal. L'inhumation aura lieu vers midi au cimetière Saint-François d'Assise, juste à côté du Magnus Poirier Sherbrooke. Je vous laisse avec quelques mots de la part de son frère, Leslie Jean-Claude. Merci.
Le 31 juillet 2025 constitue une date de deuil pour la famille Jean-Claude. C'est le jour où mon grand frère Yves nous a quittés. D'après son autopsie, il est décédé d'insuffisance rénale et arrêt cardiaque à l'hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon frère y était hospitalisé depuis 2 mois, déjà en raison d'une maladie gravement supportée. Yves est né le 17 août 1964 à Port-au-Prince, et fils de Jean-Claude Joseph Deltor et Luis Castin. Seulement une année nous séparait. Nous avons beaucoup joué ensemble. Une fois de plus, je dis merci. Salut mes proches que tu as maintenant rejoints pour moi. Reposer en paix.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on ne parle pas l'autre, n'a pas connu qui s'appuie pour nous,